Vous écoutez France Inter au quatrième top, il sera très précisément 19h. Le journal, bonsoir Frédéric Barrère.
Bonsoir et bienvenue dans cette édition du 19h. Nous sommes ensemble pour une demi-heure d'information. Au sommaire ce soir, la démonstration de force de Valérie Pécresse pour son premier grand meeting de campagne au Zénith à Paris. Un meeting très observé devant 7000 personnes. La candidate de droite a promis une nouvelle France à ses partisans. Nous serons au Zénith dans un instant. L'actualité internationale dominée toujours ce soir par la crise ukrainienne. Les États-Unis répètent que les Russes pourraient attaquer l'Ukraine à tout moment et l'Allemagne prend la main sur le front diplomatique. Dans ce journal également, le convoi des manifestants anti-pass vaccinal en route pour Bruxelles où un grand rassemblement est prévu demain. Une vague d'hommages après la disparition de Mireille Delmas-Marty hier à l'âge de 80 ans et l'ouverture demain du procès de l'assassinat du père Hamel. Vos rendez-vous du 19h avec la page sport, les Jeux Olympiques de Pékin et l'homme du jour, Quentin Fillon Maillet, champion olympique de la poursuite, sa quatrième médaille en quatre courses.
C'est juste incroyable de continuer sur cette lancée, je suis tellement fier, la course a été vraiment exténuante. Médaille d'or aujourd'hui, c'était bien au-delà de mes rêves.
Au menu également, le Super Bowl cette nuit à Los Angeles du rugby avec le tournoi à destination et on prendra des nouvelles du PSG avant le Real Madrid en Ligue des Champions. C'est mon actu, Sandrine Houdin, avec ce soir le témoignage de Lorraine à l'occasion de la journée internationale de l'épilepsie. La météo agitée et pluvieuse, Jean-Michel Golinski à la fin de cette édition. À 19h30, les petits bateaux Noël Bréham.
Bonjour, je m'appelle Béatrice, j'ai 5 ans et demi et je voulais savoir si le chocolat était un fruit.
Noël Bréham, les petits bateaux, après ce journal.
France Inter.
Le temps fort de la campagne à droite avec le premier grand meeting cet après-midi à Paris de Valérie Pécresse et la candidate des Républicains devait impérativement se relancer après une semaine compliquée et les départs de plusieurs élus LR chez Emmanuel Macron et ce soutien de Nicolas Sarkozy qui se fait attendre. La candidate jouait donc gros aujourd'hui. En direct du Zénith à Paris, on retrouve Anne Souhaitement. Bonsoir Anne.
Bonsoir.
Meeting et démonstration de force de Valérie Pécresse.
Oui Frédéric, il y avait beaucoup de monde cet après-midi, plus de 7000 personnes en Zénith, plein à craquer pour écouter une Valérie Pécresse, vous l'avez dit, dont la campagne patine. Son équipe misait sur un moment, le moment confession. Il faut qu'elle fende l'armure, disaient ses soutiens. Valérie Pécresse a fini par s'y résoudre, mais avec un ton mécanique pas très naturel. Elle a évoqué ses parents, son mari, ses enfants, ses difficultés de femme en début de carrière.
À cette époque, je vivais la vie des jeunes femmes d'hier et d'aujourd'hui, avec ses promesses d'émancipation, mais aussi ces humiliations subies en silence, celle de se voir refuser deux emplois parce que j'étais enceinte, celle du harcèlement des petits chefs.
Pas question pour autant d'aller trop loin.
Il paraît que les familles heureuses n'ont pas d'histoire. Alors heureuse, la mienne le fut. Mais avec ses épreuves de la vie, elle a aussi reçu les coups d'une rare violence. Ces cicatrices, je ne vous en parlerai pas parce qu'elles n'appartiennent qu'à moi et aux miens. Avec cette pudeur, je ne transigerai pas.
Alors évidemment, Frédéric, la grande question ce soir, c'est est-ce que ce discours, ce moment de vérité, va permettre à Valérie Pécresse de relancer sa campagne, de dépasser Marine Le Pen, Éric Zemmour, pour espérer se qualifier au second tour. Dans l'entourage de la candidate, on va scruter avec inquiétude les commentaires sur l'exercice auquel elle s'est prêtée et les sondages d'ici quelques jours.
Anne Souhaitement, merci avec Lucien Lefebvre en direct du Zénith à Paris. Autre meeting du jour, Jean-Luc Mélenchon à Montpellier devant 8000 personnes. Selon la France Insoumise, Jean-Luc Mélenchon a notamment fustigé les inégalités économiques qui se sont, selon lui, empirées sous le quinquennat Macron. L'actualité internationale est maintenant toujours dominée par la crise en Ukraine, avec aujourd'hui l'Allemagne en première ligne sur le front diplomatique. La situation a atteint un point critique selon Berlin à la veille d'un déplacement du chancelier allemand Olaf Scholz à Kiev, puis à Moscou. Olaf Scholz a prévenu qu'il avertira Vladimir Poutine qu'une attaque visant l'Ukraine aurait de lourdes conséquences. Et de son côté, Moscou a indiqué dans des termes plutôt cru que la Russie se moque des sanctions occidentales. Bonsoir Bertrand Galichet.
Bonsoir Frédéric.
Alors on le voit aujourd'hui, les fortes tensions s'expriment également dans les mots et les discours.
À commencer en effet par ceux de l'ambassadeur russe en Suède à propos des menaces des Occidentaux en cas d'invasion de l'Ukraine. Je cite « Nous n'en avons rien à foutre de toutes leurs sanctions ». Dans cette interview au plus grand quotidien de Scandinavie, l'ambassadeur Viktor Tatarintsev assure que les sanctions déjà imposées par l'Occident ont rendu l'économie russe davantage autosuffisante. Autre prise de position marquante, venue cette fois d'Allemagne, le président Frank-Walter Steinmeier, fraîchement réélu, incrimine la Russie. Nous sommes au beau milieu d'un risque de conflit militaire, de guerre en Europe orientale, et c'est la Russie qui en porte la responsabilité, dit-il. Des propos tenus à la veille d'un déplacement d'Olaf Scholz à Kiev puis à Moscou. Le chancelier dira à Vladimir Poutine qu'une attaque contre l'Ukraine aurait de lourdes conséquences. Une fermeté sans illusion. Berlin juge la situation critique et n'attend pas de résultats concrets de la rencontre Scholz-Poutine. Enfin, à Londres, le ministre britannique de la Défense estime qu'il y a un parfum de Munich dans l'air venant de certains occidentaux. Allusion à l'accord signé en 1938 avec l'Allemagne nazie et devenu le symbole de la capitulation diplomatique. Cette phrase est très mal passée auprès de l'ambassadeur ukrainien car elle pourrait offenser les partenaires de l'Ukraine dans le monde.
Bertrand Galichet, merci. Un convoi pour Bruxelles, une partie du convoi de manifestants anti-pass vaccinal est en route pour rallier Bruxelles où un grand rassemblement est prévu demain. Ces convois dits de la liberté veulent terminer leur week-end de mobilisation en Belgique, où ils espèrent être rejoints par d'autres convois européens. Et en fin de matinée, une centaine de véhicules est partie de Villepinte en Seine-Saint-Denis, direction Bruxelles. Donc, Boris Loumagne était sur place.
Elles en ont fait de la route, ces quatre amies, Madeleine, Marie, Christine et Martine.
On est parti jeudi de Toulouse. L'organisation, écoutez, c'est extraordinaire parce que partout où on s'est arrêté, il y avait toujours un accueil formidable. Les gens, ils nous disaient, allez-y, portez-nous. Portez-nous là-haut.
Merci de venir, merci de porter nos valeurs de liberté.
Madeleine en a les larmes aux yeux.
Très émouvant.
Alors avec leur petite voiture, pas question d'abandonner ici.
On roule sur Bruxelles, on va passer la frontière indépendamment par les petites départementales puisqu'on risque d'être attendu de façon plus ou moins désagréable.
On se dit qu'il y aura la solidarité belge, je pense qu'il va se mettre en œuvre et je pense qu'on n'aura pas de soucis. Enfin, moi, je suis très, très optimiste sur notre arrivée à Bruxelles. Après, bon, lundi, on ne sait pas trop comment ça va se passer, mais on verra. En fait, bon, on ne sait pas, mais on y va.
Ces quatre amies ne sont pas vaccinées et sans pass sanitaire, elles ne se sentent plus libres.
Oui, déjà, le pass sanitaire... Enfin, moi, personnellement, je suis nageuse, je ne peux plus à la piscine parce que je ne veux pas me faire vacciner.
Les quatre femmes promettent de rester mobilisées dans les prochains jours.
S'il faut aller plus loin, on continuera.
Voire même dans les prochaines semaines.
Résoudre l'équation de maths au lycée, dénoncer les fake news sur la réforme du bac et les filières scientifiques. Jean-Michel Blanquer était l'invité à la mi-journée de questions politiques sur France Inter. Le ministre de l'Éducation nationale, critiqué pour sa réforme du bac et sur la baisse du nombre de filles qui choisissent les maths en spécialité, a insisté pour mettre à plat les chiffres sur la table, même si, dit-il, il y a des améliorations à faire.
Mon but n'est pas de dire que tout va très bien, mais mon but est de dire que nous avons commencé un rebond et qu'il faut accentuer ce qu'il y a de positif à faire et éventuellement infléchir certaines choses, j'y suis tout à fait prêt. L'esprit de la réforme du baccalauréat, c'est donner plus de liberté aux élèves pour hausser l'exigence, c'est-à-dire puisqu'ils choisissent leur passion, ils peuvent aller plus loin. C'est exactement ce que nous avons fait dans les matières mathématiques et scientifiques. Et d'ailleurs, vous commencez à voir, même si on est au tout début, bien entendu, les premiers témoignages de professeurs de l'enseignement supérieur disant qu'ils constatent, malgré la crise Covid, un petit renouveau du niveau mathématique des élèves qui leur arrivent en CPGE. En classe préparatoire, on est passé de 25,6% de filles à 26,8%. Comme baisse, on fait pire quand même. Je pense que là où il y a une amélioration à faire, c'est dans le fait de savoir si en première et en terminale, il faut quand même continuer à donner un enseignement de maths de base pour ceux qui ensuite ne feront pas des études scientifiques. Je vous rappelle qu'on a fait déjà beaucoup d'ajustements de ce genre parce qu'on est pragmatique, on écoute le terrain et puis à partir de là, on avance.
Et Jean-Michel Blanquer a également indiqué que les élèves devraient pouvoir enlever le masque en classe avant la fin de l'année scolaire et cela devrait se faire au printemps, a-t-il dit. On a appris aujourd'hui la mort de Mireille Delmas-Marty, éminente universitaire et juriste. Mireille Delmas-Marty, professeure au Collège de France, membre de l'Académie des sciences morales et politiques et docteur honoris causa de 8 universités dans le monde, avait 80 ans. Elle s'est éteinte hier. Une disparition qui a suscité une vague d'hommages. En octobre 2020, Mireille Delmas-Marty, invitée de la grande table d'Olivia Gesbert sur France Culture, exposait sa réflexion sur la place de la peur dans la société.
C'est pas seulement la peur qui unit les hommes, c'est leur désir commun. Peut-être que l'humanité, un jour, ce sera le désir d'avoir un destin commun positif. Donc je crois qu'il ne faut pas bâtir seulement sur la peur, même la peur solidarité qui existe, mais il faut aussi se construire sur l'imagination, sur ce que j'appelle les forces imaginantes du droit. Et là, on voit très bien dans les domaines qui sont peut-être moins sensibles que le domaine du terrorisme ou de la pandémie, comment les forces imaginantes du droit amènent à des nouvelles catégories. On arrive aussi à dire qu'il faut protéger les générations futures, alors que pendant longtemps, on s'intéressait seulement aux générations présentes. Donc, je crois que là, il y a quelque chose à construire avec notre capacité d'imagination, qui est beaucoup plus que la capacité de la peur. L'imagination, c'est le propre de l'homme.
Mireille Delmas-Marty sur France Culture. Le procès de l'assassinat du père Hamel dans son église de Saint-Étienne-du-Rouvray s'ouvre demain à Paris devant la cour d'assises spéciale. Le 26 juillet 2016, le père Jacques Hamel était égorgé en pleine messe par deux terroristes, Adel Kemich et Abdel Malik Petitjean, abattus ensuite par les forces de l'ordre. Trois hommes qui étaient en contact avec eux seront jugés pour participation à une association de malfaiteurs terroristes. L'attentat, le premier perpétré en France dans une église par des islamistes, avait été un choc. Saint-Étienne-du-Rouvray, 30 000 habitants aux multiples nationalités, se présente comme la ville du vivre ensemble et encore plus depuis cet attentat. Reportage Anne Bertrand, France Bleu Normandie.
C'est quand même une ville où il y a énormément de nationalités et tout le monde vit bien.
François Keruel est d'origine portugaise et stéphanais depuis toujours.
Comme dans d'autres villes, il y a des cambriolages, il y a des vols de voitures, mais les stéphanais entre eux vivent bien et c'est vrai que les gens se sont ressoudés.
Ressoudés depuis l'attentat contre le père Hamel. Les soirs d'après, les stéphanais se sont rassemblés devant la mairie, bougies et fleurs à la main. Et les liens se sont ressoudés aussi entre musulmans et catholiques. Mohamed Karabina est le président de l'association cultuelle musulmane stéphanaise.
Après le meurtre, le premier vendredi, on avait un prêche ici à la mosquée. Donc on a reçu le prêtre ici, il a pris la parole, il a dit aux musulmans que je sais que vous êtes pour rien.
Et le dimanche suivant, les musulmans participaient à la messe à la cathédrale de Rouen. Pour Gabriel Mauba, qui est catholique, les terroristes espéraient semer la division. Ce fut un échec.
Ils ont échoué avec ce plan macabre parce que aujourd'hui, nous, chrétiens, musulmans, nous nous retrouvons toujours.
Et c'est d'autant plus vrai que l'autre église de Saint-Étienne-du-Rouvray et la mosquée sont voisines. Ceci dit, tous les paroissiens n'ont pas vécu pareil l'attentat. Sylvie a mis du temps à accepter.
J'ai pardonné dans le sens où le pardon nous libère, mais j'attends la justice, parce qu'il n'y a pas de pardon quelque part sans justice humaine.
Et puis concernant le procès des attentats du 13 novembre à Paris, Charlotte Piret, qui couvre ce procès avec Sophie Parmentier, nous informe ce soir qu'un nouvel accusé a été testé positif au Covid, le troisième cas, en un mois sur les 14 accusés présents, et le procès devrait à nouveau être suspendu plusieurs jours. Un film maintenant qui résonne également avec l'actualité, Maison de retraite, une comédie réalisée par Thomas Gilou et coécrite avec l'acteur Kev Adams. Il sort en salle mercredi prochain. Un casting 5 étoiles, Gérard Depardieu, Daniel Prévost, Firmin Richard ou encore Mylène de Mongeau, tous incarnent des résidents d'une maison de retraite qui en ont marre d'être enfermés, humiliés et isolés. Et en plein scandale Orpea autour des EHPAD, ce film va sans doute faire réagir. Ajra Mohamad a rencontré l'équipe du film cette semaine lors de l'avant-première au Grand Rex à Paris.
Une comédie sur les maisons de retraite en plein scandale Orpea, ça paraît plutôt osé, mais pour Kev Adams, acteur principal et co-auteur du film, le rire n'exclut pas la réflexion.
Avec la comédie, on arrive à dire plein de choses, et dans ce film, on dit plein de choses, on dénonce plein de choses. L'isolement, la maltraitance, la mise à l'écart. Il y a une mise à l'écart des personnes âgées qui a été faite dernièrement dans ce pays. Bien sûr que c'était pour le Covid, bien sûr que c'était pour les protéger, mais à quel prix ?
Dans le film, son personnage, le jeune Milan, est contraint de travailler dans une maison de retraite. Il découvre alors progressivement l'envers du décor.
Vous êtes en train de me dire qu'il ne sort jamais de la maison de retraite ?
Oui, bah écoute, c'est comme ça, c'est les règles. Et puis nous, on suit les règles.
Firmin Richard, elle, incarne une résidente. L'actrice de 74 ans n'a pas pu s'empêcher de penser à sa propre mère pendant le tournage.
Il y a des gens qui veulent aller effectivement en maison de retraite, qui sont seuls et qui ont envie. Mais ma mère ne voulait pas, et pour moi, c'était de mon devoir de la garder avec moi, quoi. C'est pas évident, effectivement, pour tout le monde. Voilà, c'est ce que je souhaite pour moi.
Si cette comédie peut faire réfléchir sur le sort de nos anciens, tant mieux. Mais pas question de taper gratuitement sur les EHPAD, ce n'est pas le but, insiste Kev Adams.
En ce moment, on stigmatise beaucoup les EHPAD, les maisons de retraite. Sauf que ça me fait de la peine pour tous ces soignants, ces aides-soignants qui nous ont justement aidés sur ce film et qui aujourd'hui se sentent aussi visés, puisque malheureusement, il n'y a pas beaucoup de nuances qui est faite dans les informations.
Une nuance apportée tout au long du film, saluée par le public lors de cette avant-première. Un public de tout âge.
Maison de retraite de Thomas Gilou et Kev Adams sur les écrans à partir de mercredi 19h15 sur France Inter. La page forte de cette édition. Bonsoir Fanny Lechevestrier.
Bonsoir Frédéric.
Et on démarre bien sûr avec l'homme du jour, sans doute l'homme des Jeux de Pékin.
Oui, avant ces Jeux, beaucoup ne connaissaient qu'un nom en biathlon, Martin Fourcade. Ils vont maintenant apprendre à découvrir Quentin Fillon-Maillet, vainqueur de sa 4e médaille olympique en une semaine, la 2e en or. C'était ce midi avec la poursuite masculine.
Voilà, il peut lever les bras, Quentin Fillon-Maillet, lever le poing également. Il franchit la ligne en se frappant le torse de ses poids. Oui, c'est bien lui le patron. Il est incroyable, Quentin Fillon-Maillet.
Et l'émotion de notre journaliste hein, Jérôme Val qui vous a fait vivre cette course au plus près. L'émotion normale, car à 29 ans, le Jurassien est entré aujourd'hui dans la légende du sport. Le terme n'est pas usurpé. Jamais avant lui, un athlète français n'avait décroché 4 médailles en une seule édition des Jeux. Pas même, le grand Martin Fourcade, admiratif au bord de la piste.
Ce qu'il a fait, c'est une performance de grande classe. Il est double champion olympique individuel. C'est simplement magique. Et voilà, un grand bravo à Quentin. C'est génial pour notre discipline. C'est génial pour Quentin qui marche sur l'eau, qui vit ses jeux comme si la pression n'existait pas, comme s'il faisait une course à saucisson, comme on dit, dans ces montagnes du Jura. Et voilà, je suis simplement très heureux pour lui. C'est un mec super et qui continue à s'éclater. C'est tout le malheur que je lui souhaite.
Et Jean Castex, le Premier ministre, a lui aussi fait part de sa admiration, saluant sur les réseaux sociaux l'homme qui transforme l'or blanc en or olympique et qui fait la fierté de tout un pays. Un département, en particulier le Jura, d'où est originaire Quentin Fillon-Maillet. Fierté et émotion dont nous parle ce soir son tout premier entraîneur, Nicolas Chouard.
J'ai une pure confiance en Quentin. On s'est quitté, donc avant qu'il parte là, on s'est quitté en se disant ben on va ramener plein de choses et c'est ce qui arrive. Donc j'avais aucune pression. Hein. Je voyais ses tirs qui défilaient. J'étais sûr de lui chaque fois. Et enfin voilà, j'avais aucun doute aujourd'hui. C'est juste du bonheur. Mais là, c'est vrai que je suis dans l'émotion parce que cette course, franchement, c'était celle qui était pointée. C'était vraiment la course cochée, quoi. Et j'y tenais à cette poursuite. Et franchement, c'est vraiment extraordinaire. C'est extraordinaire pour tous les Jurassiens, pour tout le monde, tous les Français. C'est quelqu'un de très, très simple, qui aime la montagne, qui aime s'épanouir en montagne, qui aime tout simplement vivre. Voilà. C'est vraiment quelqu'un d'extraordinaire. Ce matin, moi, je fais la tranjue et lui, il m'envoie un message. Donc, il va aller faire les Jeux Olympiques. Hein, et il m'envoie un message pour me dire bonne course. Et vous imaginez un petit peu la présence d'esprit qu'il a. Puis alors il lui reste la main start. Et pour moi, la main start, c'est sa course. Dès qu'il y a de la confrontation, Quentin, il est là, il est présent tout le temps.
Et vous l'avez compris, Frédéric, un QFM, c'est l'un de ses surnoms, pourrait encore aller chercher d'autres titres avec la Mass Start donc vendredi et le relais masculin dès mardi. Mais on parlait de surnoms. Vous voulez savoir comment on l'appelait plus jeune Quentin Fillon-Maillet en équipe de France ?
Oui, allez-y.
Le Morbac. C'était positif, cela illustrait sa façon de courir, de ne jamais rien lâcher, de toujours s'accrocher.
Une journée olympique faste donc pour l'équipe de France, Fanny, puisque Quentin Fillon-Maillet n'est pas le seul tricolore à s'illustrer.
Oui, avec deux autres médailles. Un 2 de bronze, celle du skieur Mathieu Fèvre, troisième du géant ce matin, remporté par le Suisse Marco Odermatt. Et celle du relais masculin au ski de fond, troisième derrière la Russie et la Norvège. Relais conclu par le vétéran Maurice Magnifique à 35 ans et déjà en bronze sur ce même relais à Sochi il y a 8 ans et à Pyeongchang il y a 4 ans.
Ça vaut de l'or cette médaille à chaque fois et ouais, je pense qu'on réalise pas encore parce que de refaire encore une fois trois Olympiades et franchement les planètes étaient pas alignées là pour le refaire donc finalement ça l'a fait et gros soulagement quand il y a le Suédois qui a pété et puis qui a bien pété d'un coup en plus comme ça c'était fait. Non, sur le papier c'est vrai que de toute manière c'était... C'est pas que c'était injouable, mais...
Après une semaine de compétition, la France en est ce soir à 10 médailles. Et ce n'est pas fini, puisque demain matin, un autre titre tend les bras à Gabriela Papadakis et Guillaume Cizeron en patinage artistique. Le couple de danse sur glace est largement en tête après le programme court. Leur passage au libre, 5h28, heure française.
Et la nuit prochaine également marquée par un autre grand événement sportif, un événement même majeur, le Super Bowl.
La finale du championnat de football américain suivie par quelques 100 millions d'Américains. Elle oppose cette nuit en Californie les Bengals de Cincinnati aux Rams de Los Angeles. Les Rams, grands favoris ce soir, avec un enjeu qui va bien au-delà du sport, Loïc Piala.
Le salon de coiffure de Sal Martinez est recouvert de photos et d'autres souvenirs des Los Angeles Rams. Il est fan de l'équipe depuis 51 ans. Il a continué à la soutenir, même quand elle a quitté la Californie pour s'installer à Saint-Louis pendant deux décennies.
Des gens m'ont dit, on n'a pas eu de football à Los Angeles pendant 22 ans. Alors on est devenu fan d'autres équipes comme San Francisco. Pour exister ici, il faut gagner et les Rams l'ont compris.
La franchise est revenue à Los Angeles en 2016 et a inauguré un stade à 5 milliards de dollars en 2020. Elle a connu du succès sur le terrain avec deux participations au Super Bowl en 5 saisons. Un succès indispensable pour reconquérir les cœurs dans un marché ultra concurrentiel. La popularité des Lakers en basket ou des Dodgers en baseball paraît impossible à égaler à court terme. Mais disputer un Super Bowl accélère le processus. Impossible en ce moment de rater les t-shirts jaunes et bleus dans les rues, les drapeaux des Rams à l'arrière des voitures ou Elisabeth, cette petite fille de 3 mois, habillée aux couleurs de l'équipe par son papa, Jonathan.
She's ready. She's gonna be ready for season tickets.
Elle est prête à s'abonner. Je suis très content pour le Super Bowl. Je vais élever ma fille en fan des Rams. Ma femme l'est aussi, mais autour de nous, on a surtout des fans de San Francisco ou des Raiders.
La franchise a monté au prix fort une équipe de stars pour atteindre ses objectifs. Et même si les Rams perdent, ce Super Bowl a une chance de rester mémorable pour les Angelenos. Les rappeurs Dr. Dre et Snoop Dogg, qui ont grandi à quelques kilomètres du stade, monteront sur scène pour le concert de la mi-temps.
Et le spectacle hein, où les écrans publicitaires valent des millions et où une place premier prix se négocie à 5 000 $ débute à minuit et demi heure française. En rugby, l'Angleterre s'est remis la tête à l'endroit dans le tournoi des Six Nations, battu par l'Écosse le week-end dernier. Les Anglais l'ont emporté tout à l'heure. 33-0 face à l'Italie. Le match se jouait à Rome. Mais c'est bien la France hein, qui est seule en tête de la compétition. Après son succès hier sur l'Irlande, les Bleus, que l'on rêve déjà de voir aller chercher leur premier grand chelem depuis 12 ans. Alors rêve ou réalité? On a posé la question à Raphaël Ibanez, le manager du 15 de France.
Bon, voilà, c'était un sommet de rugby européen hier soir. Il en reste trois. Deux déplacements en Écosse, au Pays de Galles, où on va être attendu, mais on aura aussi des atouts et des leviers de motivation forts. Et puis le dernier match face à l'Angleterre au Stade de France. Donc trois matchs, mais déjà aujourd'hui, à l'heure où je vous parle, on essaie de savourer pleinement avec les gars qui ont été au top.
Et comme qui dirait, on va prendre match après match. Prochain rendez-vous le 26 février à Murrayfield en Écosse.
Et le rendez-vous est pris, Fanny.
Le journal de 19h. Frédéric Barrère.
À suivre la semaine prochaine et on ouvre la page agenda des temps forts de l'actualité de la semaine qui vient avec d'abord à l'agenda judiciaire. Mardi, retour à la case procès pour Claude Guéant, à peine sorti de prison pour une autre affaire. L'ancien ministre de l'Intérieur doit être jugé pour escroquerie de frais de campagne. Mardi également, la Cour de cassation rend sa décision définitive sur le non-lieu accordé à plusieurs hauts dignitaires rwandais dans l'enquête sur l'attentat contre l'avion de l'ancien président Juvénal Habyarimana, attentat l'attentat déclencheur du génocide au Rwanda. Et puis, vendredi, le jury de la cour d'assises de l'Isère, chargé de juger Nordal Le Landais pour le meurtre de la petite Maïlis, doit rendre son verdict. Avant cela, demain, à noter la cérémonie de remise du prix Ilan Halimi, présidé à Matignon par le Premier ministre Jean Castex, un prix et aussi une mesure du plan national de lutte contre le racisme et l'antisémitisme. Mais la date, la semaine prochaine, la date à noter sur le calendrier de la semaine, c'est mercredi. Bonsoir Yann Gallic.
Bonsoir.
Deuxième étape de la levée des restrictions sanitaires annoncées par le gouvernement, Yann.
Après deux mois de fermeture, en effet, les discothèques vont pouvoir rouvrir à partir de mercredi. Les concerts debout seront à nouveau autorisés, ainsi que boire et manger dans les transports, les cinémas et les stades. Les clients des bars et des cafés-restaurants pourront également consommer debout et plus seulement assis comme aujourd'hui. Depuis ce week-end, la France a déjà assoupli les contrôles sanitaires aux frontières pour les voyageurs vaccinés qui arrivent dans notre pays. Désormais, ils n'ont plus besoin de fournir un test négatif. Enfin, le gouvernement promet la fin du masque obligatoire dans certains lieux clos et un allègement du protocole sanitaire dans les écoles. Après les vacances d'hiver, les élèves ne seront plus obligés de porter le masque dans la cour de récréation. À partir du 28 février, les élèves qui sont cas contact ne devront plus faire qu'un seul autotest au bout de deux jours. Et les attestations sur l'honneur imposées actuellement aux familles seront supprimées dès le 21 février.
Yann Gallic, merci. Et puis sur l'agenda international, à noter le sommet jeudi Union européenne, Union africaine à Bruxelles avec la question du maintien des troupes françaises au Mali. Voilà pour l'agenda. Micro ouvert maintenant à Lorraine dans C'est mon actu, notre rendez-vous avec Sandrine Houdin. Demain, c'est la Saint-Valentin, mais c'est aussi la journée internationale de l'épilepsie. Hasard du calendrier, il se trouve que Saint-Valentin, le patron des amoureux, était aussi le saint patron des épileptiques. L'épilepsie concerne près de 700 000 personnes en France, une maladie neurologique chronique que l'on connaît mal et qui peut provoquer des crises parfois impressionnantes face auxquelles on ne sait pas toujours comment réagir. Lorraine est épileptique depuis l'âge de 1 an et c'est terriblement difficile de vivre avec cette maladie, dit-elle. Voici pourquoi.
Parce que c'est un handicap inconnu, invisible.
Vous voulez dire qu'on ne se rend pas compte à quel point ça vous fait souffrir ?
Ouais.
Par exemple.
Pour l'école, ben, les camarades de classe, ça a été difficile parce que justement ces crises, ça faisait peur. J'étais considérée comme une personne différente. Enfin, en tout cas, c'est le sentiment moi que j'avais au moment des récréations, par exemple. J'avais des difficultés à aller vers les autres. Et après, c'était plus au collège, puisque c'est au moment de l'adolescence en fait où on a tendance vraiment à avoir ce jugement sur l'apparence, sur comment elle s'habille, comment elle se comporte. Et justement, les crises, ça peut faire peur.
Pour eux, vous étiez quoi ?
Une personne handicapée. C'était comme ça que j'étais vue.
Seule, dans la cour ?
Oui. Oui.
Comment on le vit, ça ?
Très mal. Moi, je restais dans mon petit coin en attendant que le temps passe. Et voilà.
Ensuite, vous avez grandi. De nouveau reléguée ?
Moi, j'ai mis du temps, en fait, à trouver aussi une vie amoureuse stable. Ça a été des histoires dans lesquelles je me suis embarquée. Voilà, je me suis attachée à la personne. Et puis, ben, du coup, ça s'est... Voilà, la première crise, forcément, ça a fait peur et ça a fini à ce moment-là, quoi.
Panique, entre guillemets.
Oui.
Vous avez le souvenir de décliner une invitation, de peur d'une crise ?
Oui, ça m'est arrivé d'avoir des appréhensions quand je me sentais pas bien physiquement. Voilà, j'avais des palpitations. Enfin, c'est des sensations que je sens au moment où je sens venir mes crises.
Vous êtes invitée, vous dites non, quoi.
C'est difficile de faire mon choix à ce moment-là.
Finalement, vous vivez dans une immense solitude.
Oui.
Votre message donc pour cette journée, Lorraine ?
Ce serait que même si vous n'avez pas autour de vous de personnes épileptiques, faire taire les idées reçues, on a besoin de faire taire ces idées reçues et faciliter les gestes qui sauvent.
Les gestes qui sauvent et pour savoir comment réagir face à une crise, Ma vie de passion de Véronique Julia dans le 6-9 du dimanche sur France Inter, à réécouter sur le site franceinter.fr. Lorraine dans C'est mon actu de Sandrine Houdin. Au générique de cette édition, Guillaume Roux et Ronan Mahé en régie qui m'ont aidé à préparer ce journal avec Corinne Audouin à la rédaction en chef, assistée de Swat Bellani et Carline Desrosiers. Un grand merci à l'équipe et merci à vous d'avoir écouté ce journal. La météo dans un instant.
La météo avec Vitacitral TR+, des laboratoires Acepta. Gel réparateur pour les mains abîmées par le froid, les gels hydroalcooliques et les lavages fréquents. En pharmacie et parapharmacie.
Jean-Michel Golinski.
Demain, il faudra choisir entre la pluie à l'est et les averses sur une large partie occidentale du pays. Le vent sera souvent très turbulent, vers 70 km à l'heure. Quant aux températures, elles vont rester partout, tout du moins en plaine, largement positives la nuit. Mais l'après-midi, bien que toujours au-dessus des normales, les valeurs vont perdre un peu par rapport à aujourd'hui. Venons-en maintenant au ciel. Les pluies arrivées ce dimanche par l'océan avancent lentement vers l'est. Demain matin, elles vont arroser le nord de la Seine, le Grand Est, la Bourgogne-Franche-Comté, l'Auvergne-Rhône-Alpes et le pourtour méditerranéen, donnant des précipitations marquées dans le quart sud-est, de la neige à partir de 1000 ou 1300 mètres sur tous les massifs. L'après-midi, la perturbation en elle-même va se bloquer entre le Jura et l'est du Rhône, alors que sur une large partie ouest du pays, ce sont des averses, parfois mêlées de grésil et d'orage, qui vont marquer cette journée de lundi.